Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Okapi Service en direct de Bénouville. Merci pour l'ambiance dans la salle. Nous parlons aujourd'hui des pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola. Et merci d'être venu de partout à travers la ville de Bénouville pour participer à cette émission. Et tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce podium Dr Baté Njoloko, directeur général de la lutte contre la maladie à virus Ebola au ministère de la Santé. Nous allons également recevoir Dr Maurice, un survivant d'Ebola, qui est avec nous dans cette salle. Et nous avons également Monsieur Kizito Bin Angui, président de la Société Civile de Beni. Merci à l'équipe de production, Marcel Ngombo, Sylvain Baugueré, Stanislas Kayunga, Sekombi Jérémy, Papi Martial et Christian Mapendano. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci d'écouter le magazine Okapi Service en direct de la salle Bioum de Beni. On va suivre les témoignages d'un survivant d'Ebola qui est avec nous ici. Il s'agit de Dr Maurice qui est là. Il va nous raconter rapidement son histoire, comment est-ce qu'il a contracté la maladie et puis comment la guérison est arrivée par après. Dr Maurice, vous avez la parole.
Oui, bonjour tout le monde. Et pour... D'abord, c'était en juillet 2017, le 5 juillet 2017, nous avons reçu une patiente, une jeune maman, qui nous a consulté à provenance d'un tradit praticien. Elle était soignée par un tradit praticien qui pensait à l'empoisonnement. Et après échec de traitement, elle a consulté au centre de santé de référence Mangodomu à Mangina. Elle a consulté pour fièvre, douleur abdominale, céphalée, fatigue, céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, fatigue et des saignements nasaux que nous appelons épistaxis. Quand on voulait transfuser, parce qu'elle était vraiment entrée, elle a développé l'anémie, la famille a décidé de consulter une autre structure de santé, notamment les centres de santé de référence Mangina, toujours à Mangina là-bas, et elle est décédée le lendemain. Une semaine après, moi aussi j'ai développé les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola. Notamment, j'ai développé la fièvre, des maux de tête. Deux jours après, se sont ajoutés des vomissements, la diarrhée, une fatigue, des difficultés à avaler. Et vraiment, j'ai réalisé plus de 3 semaines à l'hôpital. J'ai été soigné au centre de santé de référence Mangodomu. Après, je suis venu continuer le traitement à l'hôpital général de référence Doicha. Et finalement, je me suis retrouvé au centre de traitement Ebola, ici à l'hôpital général de référence de Beni.
Bon applaudissements, on va prendre une série de questions. Nous parlons des pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola. Alors, je vous en prie, soyez bref parce que la file est très longue, les autres attendent. Soyez bref, la file est très longue, vous avez beaucoup de questions à adresser, regardez vous-même derrière, donc soyez bref dans vos interventions. Bonjour monsieur.
À ce jour, tu arrives seulement à l'hôpital, si tu as une forte fièvre, on nomme ça Ebola. On ne sait pas si réellement c'est Ebola.
Même si c'était la malaria.
Ouais, j'ai une sœur qui vient de mourir, elle avait l'estomac, mais on l'a menée directement dans les bâches de traitement. pour dire que non, elle a Ebola. Alors je me demande, est-ce que réellement c'est toutes les alertes précoces qui est Ebola?
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci pour la question. Les autres attendent rapidement. Bonjour monsieur, soyez
merci,
bref dans
bonjour,
vos interventions.
Bonjour, moi c'est Edison Moussouvaro. Je m'adresse précisément au docteur Njoloko.
Voilà.
Et qui en préliminaire nous disait justement que le premier comportement à haut risque pour qui favorise en fait la transmission de la maladie du virus à Ebola, c'est le fait que la population ne sache pas que cette maladie tue et qu'elle existe effectivement. Ma question maintenant est de savoir, est-ce que de par les actions qui sont déjà menées jusqu'à présent, avez-vous l'impression que la population s'est déjà finalement rendu compte que l'Ebola existe et qu'elle tue? Je vous remercie.
Merci. On va prendre 5 questions. Les invités vont répondre et après on va poursuivre avec les autres. Allez-y, bonjour monsieur.
Dadi Azor Nyamoussisi, encadré principal adjoint du Parlement d'Enfa. J'avais 2 questions, malheureusement, à la première personne.
La première est déjà posée, passée à...
Oui, oui. Oui, oui, alors, la deuxième question, c'est de savoir quels sont les dispositifs que vous avez mis en œuvre, parce qu'il y a l'hôpital, on développe le système transfusion sanguine. Et quand on a appris que l'Ebola peut se transmettre par le sang, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour essayer un peu d'analyser le sang avant de transfuser aux malades? Merci beaucoup.
Merci. Le suivant.
Oui, je suis Jabosco Kiyohire d'Hidalgo, étudiant à l'ISP Beni. J'ai 2 petites questions. La première question, j'entends souvent parler de souches Zaïre. Je voudrais demander au docteur s'il existe combien de souches. Et je voulais aussi, j'ai aussi une suggestion, hein. Je voulais aussi demander, et si, parce qu'on dit que le personnel soit en train de travailler contre la riposte, ce sont des gens qui sont bien rémunérés, s'il ne faut pas influencer la propagation de cette maladie. Et aussi, une suggestion, je voudrais qu'on mette partout des laboratoires à permettre que les gens puissent faire des pistages volontaires, sans pour autant soupçonner avec une fièvre, dire que quelqu'un est déjà atteint de cette maladie. Merci beaucoup.
D'accord, est-ce qu'on peut applaudir pour toute cette première série de questions? Nous allons donner la parole aux intervenants. Nous allons commencer par le représentant de l'UNICEF, parce que la première question était adressée à l'UNICEF par rapport aux écoles, les parents qui craignent d'envoyer les enfants à l'école. Quelles sont les dispositions? On a l'impression que les écoles privées n'ont pas été prises en compte. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, effectivement, la réouverture des écoles est commencée depuis le 3 septembre. On appuie le gouvernement dans cette réouverture. L'UNICEF soutient cette réouverture en distribuant dans les écoles qui ont été identifiées comme prioritaires dans la riposte à travers des stations de lavement de main, avec des seaux, avec un robinet, avec des savons, pour vraiment s'assurer qu'il y ait un minimum de protection dans les écoles. Au jour d'aujourd'hui, on a couvert 177 écoles sur les zones prioritaires. On va continuer à couvrir de plus en plus d'écoles. L'idée, c'était d'avoir une stratégie d'urgence pour couvrir les écoles prioritaires. Et on va continuer à couvrir de plus en plus avec le temps un maximum d'écoles. Aujourd'hui, sur le plan de riposte global, c'est 400 écoles qui sont annoncées. Donc on va continuer avec les différents partenaires à soutenir le gouvernement dans cette approche-là. Par rapport à ça, on travaille aussi avec le Proved et le sous-Proved. On a travaillé avec les directeurs des écoles et les enseignants. On les a formés à travers des sessions de formation pour qu'ils aient les bonnes pratiques, pour qu'ils aient les bonnes connaissances, pour qu'ils puissent aussi enseigner les bonnes pratiques aux enfants, aux élèves qui vont retourner à la maison et qui vont pouvoir aussi diffuser le message. Donc aujourd'hui, tous les enseignants ont vraiment acquis cette compétence-là. On a fait quelques tours depuis la rentrée dans différentes écoles pour vérifier si le message était bien passé. Les enseignants aujourd'hui maîtrisent les choses, maîtrisent le message. Donc c'est vraiment important de continuer à amener les enfants à l'école, à pousser tous les parents à ce que les enfants retournent à l'école. Aujourd'hui, les écoles sont un endroit important et essentiel. D'accord. Pour les enfants dans l'enseignement, et c'est un environnement qui est sécurisé aussi pour eux. Merci.
Merci monsieur Jérôme Kouachi, le chef de bureau d'UNICEF Béni. Docteur Baté, vous avez la parole. Il y a eu plusieurs questions.
Ah oui, bien sûr.
Qui vous sont adressées.
On s'y attendait. Merci pour les questions. Ces questions prouvent déjà que je pense que les gens, tous ici, sont convaincus que cette maladie existe et tue. Autrement dit, vous ne serez pas venus ici. Et ça, nous en réjouissons. La question qui m'a été posée d'abord, c'était de dire quelles sont les mauvaises pratiques, les pratiques qui exposent. Parmi ces pratiques, je sais qu'à Beni Centre, ici nous sommes dans une ville, c'est vraiment une ville, mais dans la périphérie, il y a encore de nos pères qui font la chasse, nos parents et autres. Et dans la chasse, souvent, il est arrivé que le chasseur attrape une carcasse d'un animal mort des suites d'une maladie inconnue. Et la manipulation de ces carcasses d'animaux, c'est-à-dire des animaux qui sont morts d'eux-mêmes dans la forêt, c'est aussi une pratique dangereuse.
Docteur, on parle même de deux jumeaux qui auraient attrapé et mangé un chat. Et bien, à partir de là, la maladie s'est répandue.
Bon, là c'est le journaliste qui parle. Moi, je vous parle d'abord de ce que je sais comme pratique dangereuse.
À risque. D'accord.
Oui, on pourrait y revenir. En fait, je reviens encore sur la problématique des écoles. Dans tout ce qui est comme pratique à risque, nous n'avons pas dit qu'enseigner, c'est une pratique à risque. Tout comme nous n'avons pas dit qu'assister au cours, c'est une pratique à risque. Ces deux positions sociales pour les deux les êtres humains ne constituent en rien. Tout ce que nous faisons dans les écoles, c'est d'améliorer l'hygiène individuelle au maximum, puisque c'est un lieu seulement où les gens se retrouvent plus nombreux. Sinon, alors, le fait que nous restions côte à côte, c'est aussi une pratique à risque. Non, nous ne l'avons pas dit. Nous avons demandé aux enseignants, par exemple, ceux qui ont l'habitude de gifler les enfants, qu'ils ne les giflent pas. Parce que si vous allez gifler un enfant, vous allez les toucher. On n'enseigne pas l'enfant à les giflant ou à les touchant. On enseigne en tenant la craie, les stylos, les cahiers, et l'enfant tient son stylo et son cahier. Nous voulons juste.
Donc, gifler les élèves devient une pratique à risque.
Ça devient une pratique à risque. Puis cet élève, vous ne savez pas. Tout comme vous-même, vous êtes aussi, vous êtes aussi un risque pour cet enfant. Si vous enseignez, vous êtes contaminé. Voilà. Maintenant, pour revenir.
Mais il y a aussi dans les écoles, je pense qu'il faut aussi penser au point d'eau. Les enfants, quand ils vont aux toilettes, à la sortie, doivent se laver les mains avec.
Nous l'avons dit la dernière fois, nous étions avec les syndicats des enseignants. Une bonne école, c'est quoi? Ce sont les salles de classe. C'est le bureau de la direction. C'est le terrain de football. Ou le terrain de sport. Ce sont les toilettes et les points d'eau. Et ils ont reconnu que c'est ça la norme. Revenons seulement à la norme d'une bonne école. Et du coup, nous ne viendrons plus dans ces écoles-là. C'est puisqu'il y a une défaillance. Il n'y a pas de l'eau dans les écoles. Voilà. Alors, pour revenir à la question, quelle est la prise en charge des survivants? C'est une question extrêmement importante. Et ces programmes-là, nous l'avons commencé à l'Équateur, nous le continuons ici, et le docteur parmi les personnes
Docteur Maurice,
c'est Maurice que nous avons ciblé comme quelqu'un qui va piloter cela ici. C'est un programme complexe qui part de la prise en charge sociale, c'est-à-dire les démunis, nous les accompagnons avec un peu de vivres, c'est ce que nous faisons déjà ici. Au côté de cela, il y a le suivi clinique, puisque quelqu'un qui est déjà qui est guéri peut toujours manifester des signes qui sont liés à son ancienne maladie. À côté de ça, il y a le suivi biologique, c'est-à-dire à des périodes bien déterminées, nos collègues vont faire des prélèvements auprès d'eux pour savoir quel est l'état de défense de leurs anticorps dans les corps et comment ils ont réagi et aux médicaments et à la maladie. C'est toute cette enveloppe-là qui constitue la prise en charge des survivants. En fait, nous les considérons comme des convalescents de façon générale pour oui. Toutes les maladies et tout convalescent, on l'abandonne pas. Voilà, et le docteur est là. Monsieur Noé nous a posé la question de savoir quelles sont les priorités. Je vais revenir sur les cas concrets de la priorité pour nous. Les cas que nous avons identifiés à Butembo, c'est des cas que nous étions déjà en train de bien gérer ici. Mais ces compatriotes ont refusé de coopérer avec nous et ont refusé que la maladie existait. Voilà comment cette maman, paix à son âme, elle est allée mourir sous pression de ses enfants et de sa famille à Butembo.
Mais quelqu'un a dit que sa sœur est morte, c'était tout simplement, elle avait des problèmes au niveau du ventre et on dit que c'était Ebola. Et pourtant, ce n'était pas le cas.
D'accord. Nous avons un survivant ici qui vous a dit qu'il avait mal au ventre, non? Le survivant avec qui nous sommes ici, il vous a dit qu'il avait du mal d'avaler. Comment nous saurons que les maux de ventre que vous avez ne sont pas liés à Ebola si les laboratoires ne nous ont pas dit? Il n'y a pas de la magie pour savoir que quelqu'un a fait Ebola si ce n'est que le laboratoire. Maintenant, est-ce que c'est l'Ebola seul qui fait à ce que quelqu'un ait mal au ventre? Non. Il y a des milliers de maladies qui font faire à ce que quelqu'un ait mal au ventre. Mais c'est le laboratoire qui va nous permettre de distinguer que ça c'est ceci ou ça c'est cela et les autres instruments et des recherches.
Voilà, docteur, je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des directeurs des écoles dans la salle? On m'a parlé de monsieur Maneno Mupanya Josué, qui est directeur d'école. Est-ce qu'il est là? Avancez, monsieur le directeur d'école. Dites-nous comment vous faites. Est-ce que dans votre école, il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des points d'eau où les enfants peuvent se laver les mains à la sortie des toilettes? Quelles sont les dispositions qui ont été prises dans votre école? Parce que les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école.
Oui, c'est Josué Maneno Mupanya, directeur l'EPA Kamsoumizou, l'école non conventionnée. Dès le départ, notre école d'abord est à Sine. Avant que Ebola n'arrive, on pratiquait les règles d'hygiène.
Dans le cadre du programme École à Sine.
Oui, École à Sine.
D'accord.
Néanmoins, les parents traînent le pied parce qu'ils se posaient plusieurs questions. Juste avant la rentrée, certains pensaient pour vérifier sur le mât, les dispositifs sont déjà renforcés. Et la question s'est posée, pourquoi on n'avait pas déployé l'extension d'eau avant la rentrée? Pourtant, Ebola était déjà bien défini. Ça, c'est la question aussi. Et néanmoins, nous avons pris des dispositions pour que les enfants se lavent en entrant tout comme en sortant et dans leur mouvement, n'est-ce pas, de toilettes et en classe. Et, mais la question aussi se pose, le parent de Mini, frappé par les conséquences de la guerre dans notre milieu, seront-ils à mesure de prendre en charge et la prime des enseignants et de l'eau pour laver plus de 500 élèves en entrant et en sortant? Voilà ce que je devais dire.
Bon, il y a aussi une question, est-ce que vous avez sensibilisé vos enseignants pour ne plus gifler les enfants à l'école?
Oui, les enseignants ont subi d'abord une formation à la veille de la rentrée et à part ça, au niveau de chaque parade, nous ne cessons de les sensibiliser par rapport à la pratique de l'hygiène, par rapport à ne pas être en contact, de ne pas toucher les enfants. Et aux enfants aussi, nous faisons aussi de même pour expliquer aussi aux enfants, en tout cas, d'éviter de se rendre au lieu de se rendre au niveau des hôpitaux ces derniers temps, de ne pas toucher, manger quelque chose sans avoir ça, se laver au préalable. Voilà,
merci.
Nous insistons sur cela.
Merci, monsieur Josué. Maneno, je rappelle qu'il est le directeur d'école Epe Kanzouli. Voilà. On peut l'encourager. Merci d'applaudir pour lui. Au Capi Service, en direct de Bénéville. Nous parlons aujourd'hui des pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola. Rapidement, bonjour monsieur. Et vous pouvez poser votre question.
Bonjour, je suis monsieur Kidicho. Je ne pose pas une question. Je voudrais plutôt placer une considération.
D'accord.
Heureusement que cela vient de se marier avec le docteur directeur vient de dire. Pour ce qui concerne la périphérie, vraiment, la périphérie n'est pas encore bien sensibilisée. Nous tous ici, nous sommes avisés qu'il faut se laver les mains, tout ça. Allez dans la périphérie, si vous allez trouver qu'il y a des ménages qui n'ont même pas un seau. Ils ne savent même pas s'acheter un seau. Vous allez trouver des gens qui se promènent pieds nus, qui partent en toilette, parfois sur le sol boué, et comme papier hygiénique, ils utilisent les feuilles des brousses pour s'essuyer les excréments. Tout ça, c'est très dangereux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. La sensibilisation, même la radio ici, parce que celui qui ramasse son gibier là-bas, même à ce moment, il va dire à Dieu que ton nom soit sanctifié, merci beaucoup. Parce qu'il ne suit pas ce que nous faisons ici. Nous ici, nous gérons les conséquences. Mais il faut renforcer la gestion des
causes. La sensibilisation dans la périphérie.
Oui, et ailleurs.
De Béni, merci. Je termine. Bonjour monsieur, quelle est votre préoccupation?
Bonjour monsieur le journaliste, moi c'est Emmanuel Kakule Mutuambala, je suis l'ancien vice-président de la Tamovobe actuellement à Konché, mais bien que je ne sois pas au bureau, je fais les taxis quotidiennement. Et alors ma hiérarchie a trouvé que c'est mieux, moi qui partage et tout le temps avec les taximènes, que je vienne le représenter pour en parler. Et normalement, si c'était pour la plateforme, c'est bienvenu Kabuyaya qui serait là.
Vous êtes le représentant des taximens,
oui.
De motards.
Si c'était pour la Tamovobe, c'est Kasereka Pakia qui serait là.
D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on a appris que vous êtes aussi une population à risque parce que vous transportez.
Alors, tout droit à l'objectif.
Souvent les malades.
Tout droit à l'objectif, soyez peu tolérants, messieurs les journalistes, parce que les taximens, c'est une très grande couche qui a aussi beaucoup de problèmes auxquels nous devons faire face. Et quant à la problématique que nous avons soulignée, Et je vous rappelle d'abord que la fluidité du transport fait à ce que le transport soit sans limite. On va partout là où on veut. Et quand vous nous dites que ce sont les chauves-souris qui sont souvent des vecteurs d'Ebola, parce qu'elles sont à mesure de, elles sont alors à mesure de faire beaucoup de kilomètres, je vous rappelle aussi que le transport n'a pas de limite. On peut aller là où on veut avec tous les risques possibles. Alors, à continuer, et je m'en vais aussi vous dire que les taximens transportent tout le monde, sans discrimination. Et il y a augmentation du taux de risque par ces moyens-là. Et il y a aussi une maladie à phase d'incubation. Les gens qui sont mieux situés à santé, ils vont me comprendre mieux. Une maladie à phase d'incubation, c'est celle qui n'a pas encore déclenché les signes cliniques. Alors, cette maladie-là...
Alors, dites-nous, comment vous faites pour sensibiliser les taximens qui sont sous votre charge?
Vous pouvez venir
parce que vous transportez souvent les malades. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Ok. J'ai dit d'abord que la maladie à phase d'incubation n'a pas encore produit des signes cliniques. On a du mal à se tenir face à cette maladie. Alors, à moyenne, un taximen ne peut transporter plus de 70 clients par jour. Imaginez-vous, il y a de ces mamans-là qui ne savent pas monter la moto, elle doit te tenir les épaules pour qu'elle monte. Et puis, si vous avez de la sueur déjà infectée à vous, n'allez-vous pas la contaminer? Bien sûr que oui, vous pouvez aussi mettre des lavabos dans des parkings. On peut obliger aux clients de se laver les mains avant de monter la moto.
Au niveau des parkings,
est-ce que l'argent aussi sera lavé quand elle va vous payer? Ça, c'est une question à laquelle vous devez nous répondre.
D'accord.
Mais aussi, il y a parfois...
Voilà, nous sommes à Bénéville.
Il y a aussi parfois les taximens qui quittent avec un client au parking. Il va par exemple à Antony. Il ne va pas rentrer vide. Il aura une cliente ou bien un client à court de route pour rentrer avec. Est-ce qu'il y a des lavabos là où les clients se tenaient pour qu'on sente que vraiment les clients ou la cliente se lavait les mains?
Ça, c'est aussi notre est-ce problème. Que les taximens, vous allez jusqu'à Manguina, vous amenez les gens jusqu'à Bénissant?
J'ai dit que la fluidité du transport oblige le transport sans limite. On peut aller à Bounia, à Manguina, à Boutembo, il n'y a pas de limite. On peut aller partout là où on veut.
D'accord.
Mais alors...
Alors, soyez bref parce que les autres attendent...
Pour vouloir citer, j'ai dit d'être tolérant quand même.
Oui.
Pour vouloir citer, mais aussi ensuite les taximens, et nous avons peut-être demandé que si les taximens est déjà contaminé, avec 70 courses par jour, 70 courses par jour en moyenne. Imaginez-vous combien de personnes il aura à contaminer sans le savoir. Mais aussi, la salive se jette lorsqu'on discute les prix de la course alors. Lorsqu'on vous dit vous allez me payer 5 safra, avec oui. La course là, il y a la salive qui va se jeter pendant cette discussion-là.
Voilà.
Quelle est la conduite que les taximens va...
D'accord.
Alors, recommandation.
D'accord.
Recommandation. Je vous recommanderai de faire ceci. Je vous recommande
voilà, faisons
de
ceci.
Des mesures
faisons
efficaces
ceci.
Par rapport à ça.
Faisons aussi, ceci.
Et pourquoi aussi?
Oui.
C'est la plus sensible et la plus cible. Pourquoi vous ne l'intéressez pas dans ce domaine pendant qu'ils ont aussi des vraies données qu'ils peuvent vous amener pour vous aider à faire ce travail? Je vous remercie.
Merci beaucoup. En tout cas, il est extraordinaire. Il est venu avec un cahier rempli, là, tu sais. Ça, c'est bien. Bonjour, monsieur. Quelle est votre question? Alors, soyez bref, parce que regardez, la file est très longue. Permettez aussi aux autres de s'exprimer. Soyez bref, allez-y. Bonjour.
Bonjour. Mon nom, c'est Asosa Amboko, étudiant à l'INIC Beni. Ma question est à rapport aux gens qui sont des épileptiques. Vous savez, on nous dit qu'il ne faut pas toucher quand on voit un cas suspect.
Oui.
Alors, il faut contacter l'équipe d'urgence. Et voyez-vous que, généralement, les gens qui sont épileptiques, quand ils convulsent, par exemple, on doit les aider. Parfois, ils tombent dans les faits.
Oui.
Est-ce qu'il faut attendre?
Faut-il l'aider ou pas?
Faut-il l'aider? Alors, si vous ne l'aidez pas, il y a une assistance à personne à danger.
D'accord. Merci beaucoup pour la question. Au suivant. D'accord, le dernier, et puis on va donner la parole aux intervenants.
C'est le cher Oumoudi Baraka de la communauté islamique à Beni.
D'accord.
En suivant le docteur tout à l'heure, il nous a parlé les pratiques de haut risque de la contamination. Et il a cité la salive,
la manipulation des cadavres, voilà.
Le sang, etc.
Et même alors, le fait de question, ne pas croire qu'Ebola existe.
Oui, ma question est celle-ci. Quel conseil de prévention qui peut toutefois donner à la population de Beni, surtout ceux-là qui fréquentent encore les hôtels et les maisons de tolérance pour aller se décharger là-bas?
Voilà, merci. Merci d'applaudir pour toutes ces questions au Capi Service en direct de Beni. Nous allons d'abord donner la parole aux intervenants et puis on va revenir pour une autre série de questions. Docteur Bajoko, vous avez la parole.
Ok, merci. Nous allons y aller un peu rapidement puisque vous n'avez pas fini la première série de questions. Oui. Est-ce que toute alerte c'est Ebola? La réponse c'est non. Toute alerte est validée, ça signifie que les techniciens sont arrivés à la maison, ils ont investigué, qu'ils disent c'est validé. Est-ce que c'est Ebola? Non. Et Ebola, un cas suspect qui est arrivé à l'hôpital et sur lequel nous avons fait les examens et que les examens montrent que c'est ça les germes, les virus qu'il y a dans les corps. C'est ça Ebola. Ceci voudra dire que dans votre famille, si les équipes Ebola, comme on les appelle ici, arrivent dans votre famille, ne dites pas déjà que non, il y a quelqu'un qui fait Ebola dans notre famille puisque les gens d'Ebola sont venus. Non. Puisque nous avons eu des problèmes aussi comme cela dans la communauté. Les populations périphériques, nous sommes tout à fait d'accord que les populations de la périphérie sont moins informées sur la maladie. C'est pour cela que nos actions, nous ne les limitons pas seulement à Beni Centre. Nous avons les mêmes actions et beaucoup plus intensives à la périphérie, y compris Manguina et toute la périphérie Oicha. Nous sommes conscients de cela et ils sont aussi exposés à une pratique, pratiquement celle de la chasse, à laquelle nous ne sommes pas nécessairement exposés. Du fait qu'il y a Ebola ici, nous ne transfusons plus un sang qui n'est pas testé. Ça voudrait dire, si on teste, on vous transfuse, ou on veut transfuser votre enfant, posez la question si ça a été testé. Nous, dans notre pratique, ces traceurs Ebola, du moment que nous serons dans l'épidémie, avant qu'on déclare la fin de l'épidémie, c'est un des traceurs que nous vérifions avant la transfusion. Maintenant, s'il y a des gens qui ne font pas cela, c'est à vous aussi de vous prendre en charge. Sous chez Zaïre, ceci nous en avons encore parlé à une des émissions. Quasi tous les germes, tous les microbes n'ont pas qu'une seule souche. Les microbes sont comme nous. Il y a ceux qui sont, nous sommes des êtres humains, mais dans la salle ici, nous tous, nous ne sommes pas de la même race. Mais nous sommes des êtres humains. C'est aussi comme cela que sont les microbes.
Quelles sont les caractéristiques de la souche Zaïre?
Non, il n'y a pas de caractéristiques particulières. C'est des caractéristiques moléculaires qui les différencient seulement des autres, des Marburg, de Lassa et les autres. Il y a plusieurs types de virus qui causent les fièvres hémorragiques. Et ici, c'est encore la souche Zaïre. Mais cette souche Zaïre, puisque je sais qu'il y a quelqu'un qui en a parlé à la télévision, un élu ici, la souche Zaïre a plusieurs sous-souches, sous-espèces. Et pour nous, c'est important d'abord de se rassurer que c'est la souche Zaïre, puisque les vaccins, par exemple, que nous sommes en train d'utiliser, n'est sensible que à cette souche Zaïre. C'est pour cela que nous allons plus loin. Ce n'est pas que c'est une nouvelle souche qui n'a jamais existé. Non, c'est faux. Voilà. Il en est, c'est comme j'ai donné cet exemple. Quand nous naissons, nous ressemblons à nos parents, mais nous sommes tous des êtres humains. La race, elle est la race humaine. Alors, pour venir au dépistage volontaire et de masse, c'est impossible de le faire. Du point de vue d'abord logistique, et à côté de cela, des fois depuis de faisabilité. Nous ne faisons ces tests qu'auprès des gens que nous estimons être suspects. Et être suspect, ça signifie avoir présenté au moins un signe évocateur et avoir été à côté de quelqu'un ou dans un environnement où il y avait quelqu'un qui est contaminé. Les taximens, nous sommes tout à fait d'accord. C'est un grand. Il a posé beaucoup de questions.
Beaucoup de questions.
Posé voilà. Que, non, vous n'allez pas répondre. Nous avons retenu les idées. Nous avons dit ici que manipuler les habits de quelqu'un qui a la sueur, c'est un risque. Nous l'avons dit. Maintenant, prenons le temps de faire travailler cela. Et nous avons un exemple, l'épidémie de Likati. Retenez bien, ça fait un an et demi, maximum 2 ans. La personne qui avait transporté la première personne contaminée avait porté un imperméable. Ce n'est pas pour se protéger, mais du fait qu'il pleuvait. Mais le fait d'avoir porté l'imperméable, du fait qu'il pleuvait, avait protégé ses taximens. Ceci pour revenir, nous n'allons pas vous faire peur, mais la pratique de mettre quatre personnes sur une même moto, extrêmement serrées sur la moto, c'est une pratique à risque. Mais si vous transportez une personne, et entre vous et votre client, il y a de l'espace suffisant, il n'y a aucun risque que quand il vous paye votre argent, il vous remet l'argent, et que vous puissiez dire que non, cet argent a Ebola. Nous n'avons pas dit, le fait de remettre à quelqu'un l'argent, c'est une pratique à risque. Personne ne l'a dit.
Et il a même dit, lorsque le client qui est derrière vous touche à l'épaule, parce que la maman qui veut monter sur la moto, elle vous tient, est-ce que c'est également une pratique à risque?
Ok. Cette pratique devient à risque si votre épaule n'est pas vêtue d'un habit. Mais je ne vois pas les taximens qui circulent torse nu. Si vous le faites, habillez-vous. Et si vous le faites, ajoutez encore votre gilet de motard qui est, je vois ici. Ça vous fera 2-3 couches plus les cinglés, ça vous fera 3 couches. Et quand vous rentrez à la maison, sachez que l'habit que vous avez utilisé pendant toute la journée avec la sueur, ça ne doit plus être porté le lendemain. Ça doit être lavé. Nous sommes dans le contexte d'épidémie. Nous ne pouvons plus fonctionner normalement comme s'il n'y avait pas d'épidémie. C'est ce que nous vous demandons. Nous sommes dans le contexte d'épidémie. Chacun doit protéger sa peau. Voilà ce que j'ai à conseiller aux taximens. Il en est de même pour les taximens taxi. Ça, c'était taxi-moto. Arrêtez et réduisez sensiblement de mettre les gens extrêmement confinés entre eux. C'est dangereux pour vous. Alors, la dernière, c'est qu'est-ce qu'on fait pour un malade épileptique?
Voilà, quelqu'un
tombe.
Qui fait une crise d'épilepsie et qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Voilà.
Allez-y, docteur.
Celui qui a cette pratique, en fait, un frère qui tombe du fait de sa crise épileptique et qu'il a des vomiques, nous vous avons dit que tout liquide qu'il y a dans le corps humain est susceptible de les contaminer. Nous vous l'avons dit. Et voilà pourquoi, même quand on veut secourir ses compatriotes et ses frères, sachant que tout ce qu'il a vomi là peut être à l'origine de la contamination si jamais lui-même était déjà contaminé. La condition première, c'est celle-là. Et après, bon, dans le contexte de l'Ebola, la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas décourager les gens d'aller dans les hôtels? Nous l'avons dit.
Parce qu'Ebola se transmet aussi par la voie sexuelle.
Voilà, du moment qu'il y a des hypothèses comme quoi l'Ebola peut se transmettre par voie sexuelle, nous vous suggérons fortement, du moins pendant l'épidémie ici, de prendre toutes les précautions, comme on a écrit sur le pont là-bas, votre vagabondage sexuel vous expose au VIH-Sida et à Ebola.
Voilà
la suite, la dernière question.
Merci beaucoup, sous vos applaudissements. On va prendre une autre série de questions. Nous parlons des pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola. On va prendre une autre série de questions. Alors, je vous en prie, soyez brefs parce que la file est très longue, les autres attendent. Oui, madame.
Je réponds au nom de Caïdo Claudine. Je travaille à la Mako Kilokwa, marché central de Beni.
Oui, madame Caïdo.
Ma question est celle-ci. Est-ce que laver les mains, c'est une mesure de prévention efficace pour lutter contre la maladie à virus Ebola? Parce que partout, on nous parle de laver les mains on étale des lavabos partout, des lavabos. Est-ce que laver les mains, c'est une mesure efficace?
Même au niveau du marché, il y a des points d'eau, on a placé
oui,
des...
Oui,
d'accord.
Il y a des points d'eau.
D'accord, vous voulez oui. savoir si c'est une mesure efficace pour oui. lutter contre Ebola?
Oui.
Merci beaucoup, madame. Merci pour la question. Oui.
Moi, c'est Jaël Muganda, enfant reporter. D'abord, j'aimerais commencer par remercier pour les mesures préventives qui sont en milieu scolaire. Néanmoins, aux portes des écoles, on trouve les enseignants. Je voulais demander s'il n'y a pas moyen de mettre des relais communautaires là-bas parce que l'enseignant ne peut pas être au même moment au four et au moulin. C'est soit la craie, soit les thermouflages, soit la surveillance des élèves.
D'accord, merci.
Je suis Junior, réellement représentant des enfants reporteurs. L'épidémie du virus à Ebola, une fois déclarée dans une agglomération comme le cas de chez nous, pourquoi le gouvernement n'a pas interdit ni la sortie ni l'entrée de ou da Mangina pour assurer une prévention contre la contamination des localités et villes environnantes?
Merci. Enfant reporter aussi.
C'est Benjamin Assimoni, président du Parlement d'Enfants Bénis.
Ma première question, c'est d'abord à la coordination riposte, parce qu'on nous a parlé des zones prioritaires. On ne sait pas quels sont les critères pour déterminer une zone prioritaire afin de doter les écoles de la partie des kits très importants pour prévenir les enfants en place contre l'épidémie en place. Car dans notre monitoring effectué au jour de la rentrée scolaire, le 3 septembre dernier, on a constaté que des écoles qui sont presque à la porte des Manguina, qui n'étaient dotées d'aucun kit de prévention contre cette maladie. Et nous pensons qu'il est aussi important, dans le sens maintenant des recommandations, d'insérer les structures locales dans la campagne de sensibilisation pour qu'il y ait un impact rapide, parce que la population sur place a encore du mal à comprendre si cette maladie est une affaire de mythe ou c'est une sorcellerie. Et quand nous qui sommes présentement en Bénin, nous pouvons communiquer à nos compatriotes ici localement, ça sera un message très efficace et ça aura un impact et la population aura à se prévenir davantage.
Merci. Le suivant, rapidement, soyez bref dans vos interventions.
Merci pour la question. On m'appelle Médard Balouk Moukalo. Je suis étudiant à l'UNIC Béni. Ma question est de savoir, comme nous avons nos mamans de la périphérie qui ne sont pas totalement informées de la maladie à virus Ebola, par exemple, si une maman attrapait sa viande au chat, tout à l'heure, il a touché l'animal au moment de la cuisson, quand il vient de boucaner la viande, quand il ira vendre ça, est-ce que la personne qui va acheter, dès qu'il manipule, il sera aussi contaminé de la maladie? C'est la première question. La deuxième question serait de savoir quelles sont les mesures que vous avez prises pour lutter totalement contre cette maladie, puisque le conseil qui nous est prodigué ici, c'est laver les mains. Et pourtant, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous touchons fréquemment au marché, quel que soit à l'hôtel. Et puis, je voulais savoir comment vous faites pour vraiment éradiquer cette maladie, puisque selon moi, je ne vois pas que le lavage des mains serait vraiment la prévention par excellence.
D'après vous, le lavage des mains ne suffit pas. Il faut vraiment autre chose. D'accord, merci beaucoup. Rapidement.
Mie ndasema na Kiswahili. Niko tradi praticien bina itwa Kasereka Kavwaro. Niko mkubwa ya tradi praticien zamani kulikuwa ka strictere ya district sanitaire, mie njo nilikuwa ka nachunga kiti. Sasa leo mimi najiuliza kufuatana na magonjwa yenyewe ya Ebola nafika katikati yetu. Eske nafasi gani tunaweza pewa juu tulisomaga masomo kuhusu kutunza Ebola, voire même kuprevenir, lakini nafasi hatuna. Tunaweza fanya nini kusudi na sie ile Mungu alituonesha kama matunzo au kujikinga, na sie tulete contribution yetu ku magonjwa hii yenye natufikia leo ya Ebola.
Asante sana. Mais Stani, je suis encore en train d'apprendre le Swahili, hein. J'ai pas très très bien compris. Si tu peux traduire rapidement ce qu'il a dit.
Bon, il dit qu'il est
traduit praticien, voilà.
Traduit praticien. Mm-hmm. Il a aussi l'expérience. Si il peut, si le docteur peut lui donner quel conseil, si il peut aider aussi les médecins.
S'il peut recevoir aussi les malades.
Voilà, recevoir les malades ou bien les soigner.
Les soigner.
Quelque chose comme ça. C'est pas
s'il
ça.
S'il peut être intégré.
C'est pas ça.
Dans l'équipe, dans la coordination.
C'est pas ça.
Ce n'est pas
c'est
ça.
C'est bon, c'est pas ça.
Alors, okay, ça va, vous pouvez si lui tu passer peux... le micro.
Oui, ok, allez-y. Merci.
Oui.
Merci beaucoup. Il a dit ceci.
Voilà.
Attends, lui, il peut parler à sa place.
D'accord, allez-y, allez-y.
Merci
rapidement.
Beaucoup. Je suis le président de la structure de phytothérapeutes. Je voulais expliciter ce qu'il a dit parce que c'est très important.
Voilà.
Ce qu'il veut savoir, c'est... Quel est donc le mécanisme de la collaboration entre la médecine dite
moderne,
classique ou moderne, voilà, et la médecine naturelle des phytothérapeutes.
Voilà.
Cette collaboration visant évidemment à éradiquer cette maladie en virus Ebola. C'était
d'accord.
Ça sa préoccupation. Merci.
Merci beaucoup.
Okay, merci.
Alors, on ne pourra pas prendre tout le monde, ne vous découragez pas. Nous allons, dans la deuxième partie de l'émission, parler de la prévention avec le ministre de la Santé qui est là. Vous allez sûrement revenir pour les questions. On va peut-être prendre, Marcel, on prend combien de...
Combien?
Deux personnes.
Deux personnes.
Et puis, on va arrêter. Allez-y, bonjour, monsieur.
Ok, moi, c'est Samuel Moudera de Ogol, One Girl, One Leader. En fait, j'avais un avis et non une question. Je pensais qu'à Beni, il y a des associations locales qui se donnent l'audace d'aller sensibiliser avec les peu de limites financières qu'ils ont. Alors, est-ce que l'UNICEF ne peut pas emboîter les pas de ces associations-là qui sensibilisent malgré les peu de moyens qu'ils ont?
Merci beaucoup. Le suivant. Ah, on prend la dame et puis on va arrêter là pour voilà. Donner la parole aux invités qui sont sur ce plateau. Allez-y.
Oui, c'est Espérance Kazi. Je coordonne l'organisation OGOL, One Girl, One Leader. Voilà, ma première question, je voulais savoir si c'est les moyens qui manquent pour que nous puissions éradiquer l'Ebola en ville de Beni. Est-ce que c'est réellement les moyens qui manquent la République pour que nous puissions vacciner tout le monde? Puisque quand on commence à dire que ce sont les taximens qui seront plus hantés que les autres, là moi je me dis nous ne sommes pas en train de lutter contre cette maladie. Donc il n'y a pas de favoris, mais nous devons voir comment vacciner toute la population. Alors vous allez me répondre à la question, est-ce que c'est les moyens qui manquent à la République démocratique du Congo? Et aussi, quand vous nous demandez de ne pas toucher la personne déjà en terre du virus d'Ebola, est-ce que cela ne va pas encore entrer dans ce que les droits de l'homme du non-assistance des personnes à danger? Voilà. Et après cela, comme on le disait, il y a beaucoup de populations qui ne sont pas encore sensibilisées dans les périphéries. Quelles sont les mesures que les organisations internationales ont mises en place pour que les organisations locales restent quand elles peuvent partir? Puisqu'ils font, je crois, l'implication de ces organisations locales pour que ces dernières restent en sensibilisant les populations locales.
Merci beaucoup. Merci, madame. Applaudissez pour toutes ces questions. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de reprendre vos places. Les invités vont répondre et puis vous allez revenir dans la deuxième partie de l'émission quand nous allons recevoir le ministre de la Santé. Voilà, et le chef de bureau de la MONUSCO qui est avec nous ici dans cette salle. Alors, avant de donner la parole à Dr Baté, je vais donner la parole à M. Kizito Bin Angui, le président de la société civile de Beni. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Un mot par rapport à tout cela.
Tout ce que j'ai retenu de la part de la population, la population a évoqué presque des questions majeures. Il y a la sensibilisation. Ça, c'est la première question, parce qu'on a senti que la sensibilisation n'est pas intensifiée dans tous les coins de la ville de Beni, mais également dans les coins de Mangina. Donc, de ce côté-là, il faut qu'on renforce ou intensifie les...
Qu'est-ce que la société civile fait exactement pour sensibiliser ces localités environnantes?
La société civile est en train d'accompagner l'équipe de riposte dans la sensibilisation. Maintenant, il y a question de prise en compte des recommandations que ces organisations donnent à l'équipe de riposte afin d'éradiquer cette maladie. Malheureusement, de ce côté-là, l'équipe de riposte ne prend pas en compte ces recommandations de ces structures sur terrain. C'est pourquoi nous avons parlé de sensibilisation intensifiée et associée. Vous savez que la plupart de ceux qui sont venus, ils parlent de Lingala. Ils sont venus de Kinshasa en Équateur. Ils parlent de Lingala. Ici, nous parlons de Kiswahili et de Kinandé. Alors, lorsqu'ils vont sur terrain, sans être accompagnés par quelqu'un du milieu, il y aura des cacophonies où la communication ne va pas passer normalement avec la population au niveau de la base. C'est pourquoi nous avons également demandé qu'on puisse associer toutes les associations locales pour que ces associations puissent accompagner l'équipe de riposte pour que la population soit informée par rapport à ça. Mais également, il faut prendre en compte de nos recommandations, nos avis, pour que ça puisse aider la population à comprendre exactement que la maladie Ebola existe à Beni, elle tue, elle risque encore de continuer à tuer. Vous savez qu'il y a eu des coins où il y a eu des tensions, certains jeunes voulaient s'opposer. Alors nous avons dit non, de ce côté-là, il faut voir les équipes qui viennent sur terrain. Comment ces équipes se comportent devant les cas qui est présent dans les coins et les recoins. Donc, il faut que, de ce côté-là, d'accord, l'équipe qui descend sur le terrain, que cette équipe soit aussi courtoise et écouter également la population ou encore la famille victime des camps de la maladie.
D'accord, merci. Docteur Batté, on va vous donner la parole pour conclure avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Nous parlons des pratiques à risque par rapport à la maladie d'Ebola. Vous allez répondre à toutes les questions qui vous ont été posées.
Merci une fois de plus. Nous remercions tous les participants. Nous avons énoncé toutes les pratiques à risque. Je reviens sur la question de Madame, je pense que c'est Madame Kaindo, sur le lavage des mains. Est-ce que c'est une pratique efficace? Est-ce que c'est une pratique suffisante? Quelqu'un d'autre a posé la même question sous une autre forme. Nous pensons quand même que qu'il n'y a pas à douter que l'effet de se laver les mains nous protège contre beaucoup de maladies, y compris la possibilité de contracter des maladies à virus Ebola. Nous saluons la présence de son Excellence ministre de la Santé dans la salle et du professeur Mouyembe. Particulièrement pour le professeur Mouyembe, il nous a appris à l'école que celui qui n'était pas mort de virus Ebola en 76, nombreux n'étaient pas encore nés parmi nous. C'est plus s'il se lavait régulièrement les mains, il pourra peut-être le témoigner lui-même. Et c'est lui qui a la référence mondiale en cette matière, comme du côté scientifique. Lavons-nous les mains, et encore lavons-nous les mains, et toujours laver les mains, et toujours laver les mains, et faire laver les mains à nos enfants. Nous avons fait un exercice avec les parents il y a 3-4 jours. Nous leur avons posé une seule question. Combien de fois nos enfants se lavent les mains devant nous et en étant sûrs qu'ils sont lavés les mains par jour? Il y avait très peu qui ont répondu à ça. Au fait, l'école va offrir l'occasion aux enfants d'être mieux protégés puisqu'ils vont se laver systématiquement à l'entrée comme à la sortie, ce qui n'est pas le cas quand ils restent à la maison. La quarantaine de la population pour que la population de Manguina ne vienne pas, c'est une question qui revient aussi, c'est la deuxième fois qu'on la pose. Nous pensons que la réglementation internationale ne l'a pas encore autorisée, mais sous le contrôle de son Excellence, les cas extrêmes, alors vraiment extrêmes, l'État peut s'en saisir. Mais jusque-là, on n'était pas encore à ce niveau-là. Les relais communautaires, nous sommes d'accord que les enseignants n'auront pas beaucoup de temps de parler, de communiquer avec les élèves. Mais nous avons convenu avec les autorités scolaires, régède, sous-régède, que les enseignants devaient ne fût-ce que prendre 2-3 minutes de parler d'Ebola à leurs élèves. Ce n'est pas beaucoup. Même dans les exercices, parler de ça dans les exercices. Il ne faut pas qu'il y ait nécessairement un relais communautaire pour parler d'Ebola tel qu'on nous a dit. Revenons sur comment on va identifier les zones prioritaires. Nous sommes d'accord, c'est une question importante. On ne peut pas aller partout. Personne ne peut aller partout. Du fait qu'on ne peut pas aller partout, nous avons un certain nombre de critères. Et ces critères-là répondent plus à la logique de où est-ce qu'il y a beaucoup plus de risques que les gens soient contaminés. Le plus grand risque que les gens soient contaminés, c'est là où il a été quelqu'un qui a été confirmé était malade. Soit dans un hôpital, soit dans un quartier, soit dans une école. Mais au moins, nous n'avons pas de confirmation de là où les malades sont venus des écoles.
Docteur Batté, pour aller rapidement, il y a une question par rapport à la collaboration entre la médecine traditionnelle
impeccable.
Et la médecine moderne.
C'est tout ça, tout à fait. C'est ce qui va là-bas.
Allez-y, on va conclure.
D'abord, je tiens à exprimer que nous travaillons avec les ONG locales dans toutes nos commissions. Aujourd'hui, on était avec les relais communautaires. Cette question souvent elle est posée puisque tout le monde veut nécessairement faire une action visible. Mais nous pensons que l'effet que vous puissiez obliger à vos enfants de se laver les mains, c'est déjà un rôle que vous jouez dans le lavage des mains. Nous avons vu dans cette ville, les jours qu'on est arrivé, il n'y avait pas de point de lavage des mains devant les hôtels et devant les magasins. Personne n'a acheté pour eux ces dispositifs. Les commerçants ont acheté et à l'entrée de tous les supermarchés ici, il y a le point de lavage des mains. Ça, c'est leur contribution comme commerçants de prendre, c'est pas 1000 francs pour acheter les bassins, 2000 francs pour acheter la table et poser les dispositifs. Et nous lavons les mains en entrant dans les supermarchés à Butembo. Nous saluons, nous félicitons ces compatriotes qui sont civiques et qui vont dans ce sens. Les tradis praticiens, nous sommes heureux de nous rendre compte que le président des tradis praticiens qui est passé devant vous a déjà eu un contact avec nous. Nous l'avons déjà formé, nous l'avons déjà sensibilisé comme tradis praticien. Les tradis praticiens sont nos partenaires clés. C'est pour cela que nous avions déjà eu un contact avec lui. Par contre, moi je vais retourner la question au président des tradis praticiens. Hier, nos équipes étaient prêtes pour vacciner ses membres, mais lui ne les a pas mobilisés au point que nos équipes sont restées sans les vacciner. Si le président des tradis praticiens peut les mobiliser, je vais le dire un peu en swahili, puis il a posé sa question en swahili. Nous sommes comme membres de tradis praticiens de Trongi à Nabo, il n'a pas de na tu sikizana kama utaleta batradi praticien tu ba change jumu kuna risk ya kukua contaminé jumu kuna kusa mwili ya watu mkuwatunza mejana wafundi wetu walikia kuchanja kutafuta kumchanja watu bakukua wakwako tunapenda kama uko tayari ubaite na sisi tukamate rendez-vous du tutanje batradi praticien bote mefisiki ya beni na tunaweza kwenda mbali tibu tembo. Merci. Alors la dernière question, est-ce c'est l'argent qui manque à la RDC pour qu'on ne vaccine pas tout le monde? La réponse, c'est oui et non. Mais vous ne pouvez acheter que ce qui est fabriqué en quantité suffisante. Ce vaccin n'est pas encore vacciné en quantité suffisante. Bref, c'est un vaccin qui n'est pas encore commercialisé. L'État congolais achète déjà les vaccins pour nos enfants. Les vaccins qu'on utilise là, aujourd'hui, pour vacciner nos enfants, c'est l'État congolais qui les achète. Et nous ne pensons pas que l'État congolais ne puisse pas avoir l'argent. Actuellement, pour toute la RDC, il ne reste que 5000 doses de ces vaccins-là. Et à travers le monde, il n'y avait que 300 000 doses. Et du coup, déjà à Beni, nous sommes plus que 300 000 habitants. Pourtant, c'est les 300 000 doses pour toute la planète. Même si l'État congolais avait l'argent, il ne pouvait pas acheter. Merci.
Merci, docteur Baté. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les intervenants de cette première partie de l'émission Capi Service? Sur les pratiques à risque par rapport à la maladie à virus Ebola, nous disons merci à Dr Baté Njoloko, directeur général de la lutte contre la maladie à virus Ebola au ministère de la Santé. Merci à Dr Maurice, qui est un survivant d'Ebola. Et nous disons également merci à Monsieur Kizito Bin Angi, président de la société civile de Beni. Sous vos applaudissements.
Bonjour à tous. Oui, c'est l'artiste Demba qui est devant vous. Ah, Demba. Elle. Nazoga ma bebona zina katana. Na bandaki milangi timo ye batama. Bande komo kili ma bebo tika na panzana. Sigumu uwa mutu batika na tetuka. Nazobeta zodede bona zangi musala mama ye. Nazaka ode buye. Nazaka ode bu. Nazaka ode buye. Nazaka ode bu. Aye. Ah, let me drink and beer. I haven't done thinking at Kakulewa. When I drunk, don't give me hangover. That's why me, I'm taking over. Rusha mangoma, mimi nataka cheza. Nikirusha zangu, mimi naweza weza. Sitaki giza, mimi nataka mwangaza. Muna ntangaza, na wasikia, na wanyamaza, na waangaza. Muna nikwaza, na watazama kwa mbali. I haven't the pressure, mimi sina pupa. Nikitetuka, na tetuka, sina pupa. Amwezi nitisha, swezi stuka. Mimi ni jeshi kamili, nipe chupa. Ah. Washa nazoka mabepo na zina katana. Na bandaki milangi timo ye batama. Bande komo kili mabepo tika na panzana. Siku muhua mutu botika na tetuka. Nazobeta sodete bona zangi muzala mama ye. Nazaka aote bu ye. Nazaka aote bu. Nazaka ode buye. Nazaka ode bu. Nazoba ete. Tika na bakiza pona zalaka ode bu. Sigare zangate. Tika na tetuka. Na, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie.
Merci à tous les habitants de Beni qui est, pour être venus participer à cette émission sur Ebola à Beni. Et merci à toute l'équipe de production, Marcel Kombomba, la Keba, Stanislas et Sylvain Baugour et toute l'équipe de Radio Capi Beni. Merci et à la prochaine.